Chapitre 50. Enseigner et apprendre. Environ 4 heures plus tard, alors que la sueur ruisselant sur son front n'avait qu'un lointain rapport avec l'écrasante chaleur, Ninive en était au contraire à se demander s'il n'aurait pas mieux valu que Nérès leur ait menti, ou qu'il ait refusé de les transporter plus loin que Boanda. Dans la salle aux fenêtres presque toutes fendues, l'ancienne sage-dame serrait nerveusement le devant de sa robe en essayant de ne pas regarder les 6 Aes Sedai rassemblés autour d'une table massive près d'un mur. Protégée par un bouclier de Saïdar, elle conversait sans que quiconque pût entendre ce qu'elle disait. Les mains croisées à la hauteur de la taille, Elaine pointait le menton, mais ses yeux et sa bouche légèrement plissés gâchaient une bonne partie de l'effet. Après qu'une série de mauvais coups eut réduit à néant presque tous ses espoirs, Ninive n'était plus très sûre d'avoir envie de savoir ce que se disaient les sœurs. Une surprise désagréable de plus, et elle craignait de se mettre à hurler, pas de rage, mais tout simplement d'énervement. À l'exception de leurs vêtements, presque toutes les possessions de l'ancienne sage-dame et de sa compagne reposaient sur la sinistre table. Oui, depuis la flèche d'argent de Birgit posée devant Morvryn, jusqu'aux 3 terrans gréal que Sheriam était en train d'étudier tandis que Myrel s'intéressait au coffret doré. Et aucune des 6 femmes ne semblait bien disposée. Carlinia avait les traits figés comme ceux d'une statue. Anaya, d'habitude si maternelle, faisait grise mine. Et Béonine, en plus de son air éternellement étonné, paraissait très nettement contrariée. Et même un peu plus que ça. De temps en temps, elle faisait mine de vouloir toucher le carré de tissu blanc qui recouvrait le seau en Quendillard, mais elle retirait toujours sa main au dernier moment. Ninive détourna les yeux du morceau de tissu. Elle savait très exactement à quel moment les choses avaient mal tourné. Dans la forêt, les champions qui les avaient encerclés s'étaient montrés courtois, mais pas amicaux, une fois qu'elle avait ordonné à Ono et à ses hommes de rengainer leur épée. Plus tard, l'accueil de Mine avait été franchement chaleureux, mais les Aes Sedai et les autres personnes qui allaient et venaient dans les rues avaient pressé le pas sans accorder plus d'un regard au petit groupe de nouveaux venus escortés par des champions. Salidar était bondé, et des hommes armés s'entraînaient un peu partout. Dans cette atmosphère tendue, la première personne à s'intéresser aux visiteurs, à part les champions et Mine, avait été la mince sœur Marron, devant laquelle on les avait conduits, dans ce qui était jadis la salle commune de cette auberge. Ninive et Elaine avaient raconté à Phaedryn Sedai l'histoire qu'elles avaient peaufinée ensemble. Enfin, elles avaient essayé. Au bout de 5 minutes, l'Aes Sedai les avait abandonnées, avec ordre de ne pas bouger et interdiction de parler, même entre elles. Après 10 minutes passées à se regarder avec stupéfaction, tandis que s'agitaient autour d'elles des acceptés, des novices tout de blanc vêtus, des champions, des serviteurs et des soldats, toute cette activité étant orientée vers les tables où des sœurs étudiaient des documents et criaient des ordres, Ninive et Elaine avaient été escortées dans une pièce attenante à la salle commune, pour comparaître devant Sheriam et les 5 autres. Escortées si promptement que l'ancienne sage-dame n'aurait pas juré que ses pieds étaient encore en contact avec le sol. L'interrogatoire avait commencé sans autre forme de procès. Un accueil bien plus adapté à des prisonnières qu'à des héroïnes, il fallait bien l'avouer. Ninive se tamponna le visage avec son mouchoir. Dès qu'elle eut fini, sa main revint automatiquement torturer le devant de sa robe. Elaine et elle n'étaient pas seules à attendre sur le tapis de soie. En robe bleue très ordinaire, Siouan était là aussi. De sa propre volonté, on aurait pu le penser, à voir son calme souverain, mais Ninive n'était pas dupe. Alors que Siouan semblait perdu dans ses pensées, Léane regardait les Aes Sedai, mais elle aussi paraissait sereine et sûre d'elle. En fait, il émanait d'elle plus de confiance que dans le souvenir de l'ancienne sage-dame. Et la femme au teint cuivré paraissait aussi plus gracieuse et plus ondulante. Peut-être à cause de sa tenue scandaleuse. Car si elle n'était pas plus décolletée que celle de Siouan, à savoir pas du tout, sa robe de soie verte moulante, pas transparente mais pas vraiment opaque non plus, mettait en valeur chacune de ses courbes. Le plus étonnant, cependant, restait le visage de ces 2 femmes. Déjà stupéfaite de les découvrir encore en vie, Ninive n'en revenait pas de les voir paraître si jeunes, à peine plus vieilles qu'elles de quelques années. À part ça, elles évitaient de se regarder, comme si elles étaient en froid. Il y avait quelque chose d'autre de nouveau chez elles, un changement que Ninive commençait à peine à identifier. Si tout le monde, y compris Mine, avait été vague sur la question, nul n'avait tenté de nier que les 2 femmes avaient été calmées. Et on sentait qu'il leur manquait quelque chose. peut-être parce qu'elle était dans une pièce à part ça remplie de femmes capables de canaliser le pouvoir, ou au contraire parce qu'elle savait ce qui était arrivé à Siouan et à Léane, Nineveh, pour la première fois, avait conscience du potentiel d'Elaine et des sœurs présentes, et de son absence chez Siouan et Léane. Oui, on leur avait arraché quelque chose, et il leur restait une plaie béante. Peut-être la plus grave dont une femme puisse être affligée. La curiosité prenant le pas sur l'inquiétude, Nineveh se demanda à quoi ressemblait cette plaie, et que leur avait-on arraché. Puisqu'elle avait du temps à perdre et assez de colère en elle pour canaliser, la jeune femme décida de mener ses propres investigations.
« Quelqu'un t'a autorisé à canaliser le pouvoir, accepté ?»
lança Shériam. Nineveh sursauta et se coupa aussitôt de la source authentique. Shériam guida les cinq autres sœurs jusqu'à des chaises installées en demi-cercle, d'où on avait une vue imprenable sur les quatre femmes debout au milieu du tapis. Certaines Aes Sedai ayant entre les mains un objet pris sur la table, toutes s'assirent, le regard rivé sur Nineveh. Bien entendu, aucune ne transpirait, ne semblait même consciente de la chaleur.
« Vous êtes restées très longtemps loin de nous, mes filles, »
dit Anaya sur un ton plutôt bon enfant.
« Quoi que vous ayez appris pendant votre absence, vous avez oublié bien des choses. »
Sentant qu'elle rougissait, Nineveh fit une révérence contrite.
« Pardonnez-moi, Aes Sedai. Je n'avais pas l'intention de violer une règle. »
Avec un peu de chance, les sœurs croiraient qu'elles s'empourpraient de honte. En réalité, elle était vraiment très loin de ses simagrées. La veille, c'était elle qui donnait des ordres. Et aujourd'hui, elle aurait dû obéir ? Une humiliation, rien de moins.
« Votre histoire est intéressante, »
dit Carligna. À l'évidence, elle n'y croyait pas beaucoup.
« Et vous nous revenez avec de bien étranges possessions, »
ajouta-t-elle en brandissant la flèche d'argent.
« La panarche Amatera nous a offert beaucoup de choses, »
dit Elaine.
« Parce qu'elle était persuadée que nous avions sauvé son trône. »
Malgré son ton égal, la fille héritière faisait irrésistiblement penser à quelqu'un qui marche sur des charbons ardents. À l'évidence, la perte de leur liberté n'agaçait pas que Nineveh. Carligna plissa son front sinon parfaitement lisse.
« Vous arrivez avec des nouvelles inquiétantes, »
dit Shériam.
« Et des objets qui ne le sont pas moins. »
Son regard se posa brièvement sur la dame abandonnée sur la table, puis revint se fixer sur Nineveh et Elaine. Depuis que les Aes Sedai savaient de quoi il s'agissait, presque toutes traitaient l'artefact comme s'il était un serpent venimeux.
« Si cet objet a les propriétés qu'elles nous ont décrites, »
dit Morvryn, l'exception à la règle.
« Nous devons l'étudier. Et si Elaine croit vraiment être capable de fabriquer un terran gréal ?»
La sœur marron secoua lentement la tête. En réalité, elle était surtout fascinée par l'anneau de pierre doté d'une seule face et veiné de rouge, de bleu et de marron qu'elle serrait entre ses doigts. Les deux autres terran gréal reposaient sur ses genoux.
« Selon vous, « cet artefact vient de Verin Sedai ? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais entendu parler ?»
La deuxième question était adressée à Siouan, pas aux deux acceptés. L'ancienne chère d'Amerline fronça les sourcils, mais pas à la façon dont Nineveh se souvenait. Là, il y avait comme un peu de soumission, comme si elle avait conscience de s'adresser à des supérieurs. Sa voix aussi contenait une touche d'humilité. Encore un changement, et presque incroyable celui-là.
« Verin ne m'en a jamais parlé. Je serais curieuse de l'interroger à ce sujet. Moi, j'ai des questions au sujet de ça. »
intervint Mirel en dépliant une feuille de parchemin ô combien familière aux yeux des deux acceptés. Au nom de la lumière, pourquoi l'avait-elle gardée ?
Je lis à haute voix. Tout ce que fait la personne porteuse de ce document est couvert par mon autorité, consécutivement à des ordres que j'ai donnés. J'entends qu'on ne lui fasse pas obstacle et qu'on lui obéisse. Siouan Sanche, gardienne des Sceaux, flamme de Tarvalon et chère d'Amirline.
Mirel froissa dans son poing le document et son sceau.
Le genre de lettre de mission qu'on ne remet pas à des acceptés en général. À l'époque, je ne savais pas à qui me fier,
dit Siouan. Les six Aes Sedai la regardèrent fixement.
En ce temps-là, ça faisait partie de mes prérogatives.
Les sœurs ne bronchèrent pas, mais elle ne se laissa pas démonter.
« Vous ne pouvez pas me demander des comptes pour avoir agi comme je l'estimais juste, alors que j'en avais le droit. Quand la cale est percée, on colmate la brèche avec ce qu'on peut. »«
Et pourquoi ne nous en as-tu pas parlé ?»
demanda Shériam d'une voix veloutée qu'il ne fallait surtout pas prendre pour argent comptant. Dans ses fonctions de maîtresse des novices, elle n'élevait jamais le ton, et ça ne la rendait pas moins impressionnante.
Trois acceptés. Des acceptés, je répète. Chargés de poursuivre 13 Aes Sedai membres de l'âge à noir. Pour colmater la cale, tu utiliserais des bébés, Siouan ?
Nous n'avons rien de bébés,
intervint Ninévée hors d'elle.
Plusieurs de ces 13 sœurs sont mortes, et nous avons par deux fois ruiné leur plan. Athéar, nous, tu nous as tout raconté sur Théar, mon enfant.
Coupa Carlinia.
Et sur Tanchico, et sur la déroute de Mogadien.
La Aes Sedai fit la moue. Durant le récit, elle avait dit que Ninévée était folle d'avoir approché une rejetée à moins d'une demi-lieue et qu'elle pouvait se féliciter de s'en être sortie vivante. La pertinence de cette remarque, quand on connaissait toute l'histoire, n'avait rien fait pour arranger le malaise de Ninévée.
Vous êtes des gamines, et vous pourrez vous estimer heureuses si nous ne vous flanquons pas la fessée. Et maintenant, tais-toi jusqu'à ce qu'on t'ait autorisé à parler.
De plus en plus écarlate et pas de honte, Ninévée parvint à contenir sa rage.
« Eh bien ?»
demanda Shériam, qui n'avait pas cessé de dévisager Siouan.
« Pourquoi n'as-tu jamais dit que tu avais expédié trois fillettes à la chasse au lion ?»
Siouan prit une grande inspiration, mais elle baissa la tête et croisa humblement les mains.
« Ça semblait secondaire, Aes Sedai, alors que tant d'autres choses étaient vitales. Je n'ai rien gardé par-devers moi quand il y avait de bonnes raisons de parler. Ne vous ai-je pas communiqué le peu que je savais sur la Janoir ? Pendant un moment, j'ignorais ce que faisaient ces deux acceptées et où elles étaient. Ce qui compte, c'est qu'elles soient revenues, et avec trois Terangreal en plus de tout. Vous devez comprendre à quel point il est utile d'avoir accès au bureau d'Elaïda et à ses documents, même partiellement. Sans ça, vous auriez appris trop tard qu'elles savaient où vous étiez.
« Nous le comprenons, »
dit Anaya. Elle jeta un coup d'œil à Morvryn, qui étudiait toujours l'anneau de pierre.
« Mais la façon de le faire nous surprend un peu. Tel Aran Riod, »
souffla Myrel.
À la tour, c'était devenu un sujet de conversation entre érudites. Presque un mythe. Des aïels capables de marcher dans les rêves? Nous n'imaginions pas que certaines matriarches pouvaient canaliser. Alors ça, en plus.
Ninévée regrettait vraiment qu'elle n'ait pas pu passer ce point-là sous silence. Comme la véritable identité de Birgit et deux ou trois autres choses. Mais il était difficile de ne pas lâcher des informations lorsqu'on était interrogé par des femmes qui auraient pu percer la pierre du regard si elle l'avait voulu. Dans ce contexte, mieux valait se réjouir de ne pas avoir tout déballé. Une fois le monde des rêves mentionné, et quand il était devenu clair qu'elles y étaient entrées, plus rien n'aurait pu empêcher ces femmes de poser des questions. Autant espérer qu'un sourire puisse forcer des chats à grimper aux arbres pour fuir une souris. Sans regarder Siouan, Léane fit un demi-pas en avant.
« Ce qui compte, »
dit-elle,
« c'est qu'avec cet Erangreal, vous pouvez parler à Egwen, et par son intermédiaire, entrer en contact avec Moiraine. Grâce aux deux, vous serez en mesure de garder un œil sur Andaltor et de l'influencer malgré la distance qui nous sépare du Caerien. Où il est entré en venant du désert des Aiel, »
ajouta Siouan,
« où j'avais prédit qu'il irait. »
Si son regard était braqué sur les sœurs, son intervention s'adressant apparemment à elles, son ton amer visait directement Léane, qui répliqua.
« Un sacré coup d'épée dans l'eau ! Deux Aes Sedai envoyés dans le désert à la poursuite de Chimère. »
Oui, les deux femmes étaient bien en froid.
« Assez, mes enfants !»
lança Anaya, comme si elle était une mère qui réprimande de garnement. Elle regarda l'une après l'autre ses collègues.
« Parler à Egwene serait une bonne chose. »«
Si ces objets fonctionnent comme on nous l'a dit, »
précisa Morvryn en faisant sauter l'anneau de pierre dans sa paume. En même temps, elle tapota le disque et la plaque. Pour croire que le ciel était bleu, cette femme aurait eu besoin de preuves.
« Oui, »
dit Shériam.
« Et ce sera votre première tâche, Elaine Ninévée. Vous allez avoir l'occasion d'enseigner quelque chose à des Aes Sedai. En d'autres termes, vous nous montrerez comment utiliser cet Erangreal. »
Ninévée s'inclina et eut un rictus que les sœurs pouvaient prendre pour un sourire, si le cœur leur en disait. Leur enseigner ? Et ensuite, ne plus jamais pouvoir approcher de l'anneau et des autres artefacts ? Elaine s'inclina aussi, le visage de marbre et le regard s'attardant sur l'absurde Adam posé sur la table.
« Les lettres de crédit seront très utiles, »
dit Carlinia. Malgré toute la froideur et la logique typique de l'âge à blanc, de l'agacement s'entendait encore dans sa voix.
Gareth Bryne veut chaque jour un peu plus d'or. Et grâce à ce trésor, nous serons en mesure de le satisfaire.
Exact,
dit Shériam.
nous allons aussi vous confisquer la majorité de vos pièces d'or. Il y a de plus en plus de bouches à nourrir et de gens à vêtir, ici et ailleurs. »
Elaine acquiesça avec grâce, comme si elle avait pu empêcher quoi que ce soit en refusant. Ninevée, elle, resta sur l'expectative. L'argent, les lettres de crédit et même les terrains gréales, tout ça n'était que le début.
« Pour le reste, »
reprit Shériam,
« nous avons décidé que vous aviez quitté la tour pour obéir à un ordre, si mal avisé fut-il. Il ne vous en sera donc pas tenu rigueur. Maintenant que vous êtes de retour parmi nous, vous allez pouvoir reprendre vos études. »
Ninevée se contenta de relâcher son souffle doucement. C'était exactement ce qu'elle attendait depuis le début de l'interrogatoire. Ça ne lui plaisait pas, bien entendu, mais pour une fois, personne n'allait pouvoir l'accuser d'avoir un caractère de cochon, surtout quand exposé n'aurait servi à rien.
« Mais !»
commença à protester Elaine.
« Vous reprendrez votre formation !»
coupa Shériam.
« Vous êtes très puissantes dans le pouvoir, toutes les deux. Mais il vous reste à devenir des Aes Sedai. »
Les yeux verts de l'ancienne maîtresse des novices restèrent rivés sur les deux acceptés le temps qu'il fallut pour qu'elle renonce à toute résistance.
« Vous êtes revenus parmi nous, »
continua alors Shériam d'un ton un peu plus conciliant.
« Et si Salidar n'est pas à la Tour Blanche, faites quand même comme si. Si je me fie à ce que vous nous avez dit en une heure, il vous reste encore beaucoup de choses à nous raconter. »
Ninevée en eut le souffle coupé, mais Aes Sedai tourna la tête vers la dame.
« Dommage que vous n'ayez pas amené la Saanchanienne avec vous. Voilà une initiative que vous auriez dû prendre. »
Elaine s'empourpra de confusion et de colère. En même temps, oui. Soulagée que Shériam n'ait rien eu d'autre en tête, Ninevée ne releva pas la pique.
« Mais peut-on reprocher à des acceptés de ne pas réfléchir comme les Aes Sedai ?»
demanda Shériam, enfonçant le clou.
« Siouan et Léane vont vous poser beaucoup de questions, et vous leur répondrez du mieux que vous pourrez. Dois-je préciser que vous ne devrez pas tenter de tirer parti de leurs conditions présentes ?» Des acceptés et même des novices ont cru bon de les rendre responsables de ce qui s'est passé, certaines se croyant autorisées à les punir. Ces jeunes sottes regardent fort leur initiative. Vous pouvez me croire. Est-il utile d'en dire plus ?
Ninevée et Elaine firent un concours de vitesse pour déclarer que non, ce n'était pas utile. Dans leur hâte d'en finir, elles en bafouillèrent. Si l'ancienne sage-dame n'avait jamais eu l'idée d'accuser quiconque, dans son esprit, toutes les Aes Sedai étaient coupables, elle ne voulait surtout pas que Shériam soit fâché contre elle. Cette idée sonna dans sa tête comme le glas qui annonçait la mort de sa belle liberté.
« Parfait. Vous pouvez garder la flèche d'argent et les bijoux offerts par la panarche. Quand nous aurons plus de temps, vous m'expliquerez pourquoi elle vous a fait cadeau d'un projectile. Maintenant, retirez-vous. Une de vos camarades acceptées vous trouvera un endroit où dormir. Il sera plus difficile de vous fournir des robes convenables, mais nous y parviendrons. J'entends que vous oubliez vos aventures pour reprendre la place qui est la vôtre. »
Et bien entendu, si elle ne le faisait pas d'elle-même, les deux jeunes femmes pouvaient prévoir qu'on les y forcerait. Voyant qu'elle s'était bien fait comprendre, Shériam eut un hochement de tête satisfait. Alors qu'elle n'avait pas dit un mot depuis la disparition du bouclier de Saïdar, Béonine se leva pendant que Ninevée et Elaine faisaient leur révérence et approcha de la table où reposaient les trésors confisqués.
« Et cet objet ?»
demanda la sœur grise avec son lourd accent du Tarabone. D'un geste vif, elle retira le morceau de tissu blanc qui dissimulait le sceau de la prison du Ténébreux. Et pour une fois, ses grands yeux bleus exprimaient de la colère et non de l'étonnement.
« Allons-nous poser des questions à ce sujet ? Ou avez-vous toute l'intention de vous voiler la face ?»
Près de la bourse en peau de chamois où il avait été rangé, le disque noir et blanc brisé mais soigneusement reconstitué à la manière d'un puzzle, reposait sur la table.
« Quand nous l'avons mis dans la bourse, »
dit Ninevée, la bouche sèche.
« Il était entier. »
Alors qu'elle avait tout fait pour ne pas regarder le disque jusqu'à présent, elle ne parvenait plus à en détourner le regard. Quand Léane avait vu dénouer la robe écarlate, elle avait ricané, puis lâché. Non. Même en pensée, elle n'allait pas se dérober.
« Pourquoi aurions-nous pensé à prendre des précautions ? Cet objet est en Quendiyar. Nous ne l'avons pas touché, »
dit Elaine, la voix tendue.
« N'y regardez plus que le strict nécessaire. Son contact nous répugnait, comme s'il était maléfique. »
Cette sensation avait disparu. Carlinia les avait toutes les deux obligées à tenir un des fragments, afin qu'elles décrivent exactement ce qu'elles éprouvaient. Comme elles avaient dit les mêmes choses auparavant, et plus d'une fois, personne ne les prenait plus au sérieux désormais. Shériam se leva et vint se camper près de la sœur grise aux cheveux couleur de miel.
« Nous ne nous voilons pas la face, Béonine. mais poser plus de questions à ces jeunes filles ne servira à rien. Elles nous ont dit tout ce qu'elles savent.
Les questions ne sont jamais inutiles,
dit Morvryn. Mais elle avait cessé de triturer l'anneau de pierre pour regarder le seau brisé, comme toutes les autres. Selon Béonine et elle, c'était bien du Quendillar. Pourtant, Morvryn avait pu casser un fragment en deux avec ses doigts.
« Combien de seaux sur les sept résistent encore ?»
demanda Mirel à voix basse, comme si elle parlait toute seule.
« Quand le ténébreux se libérera-t-il, sonnant l'heure de l'ultime bataille ?»
Toutes les Aes Sedai avaient des pouvoirs à peu près semblables, en fonction de leurs talents particuliers et de leurs inclinations. Mais ça n'empêchait pas que chaque Aja ait ses spécificités. Le ver, également appelé l'Aja guerrier, se préparait à affronter les nouveaux seigneurs de la terreur lors de l'ultime bataille. Et il y avait en effet une touche d'anticipation dans la voix de Mirel.
« 3 »,
répondit Anaya, hésitante.
« 3 sceaux résistent encore, s'il ne nous manque pas des informations. Prions pour que ce soit le cas, et pour que 3 soient suffisants.
Et pour que ces 3-là soient plus solides que celui-ci, »
marmonna Morvryn.
« Le Quendillar ne peut pas se briser ainsi. » Il ne peut pas être du Quendillar et se casser.
Nous en parlerons le moment venu,
dit Sheryam.
Après avoir évoqué des sujets plus terre à terre sur lesquels nous avons une influence.
Elle prit à Béonine le carré de tissu blanc et le reposa sur le seau.
Monsieur Wan et Léan, nous avons arrêté une décision concernant.
Elle se tut, se retourna et avisa les deux acceptés.
Que fichez-vous encore ici?
Malgré son calme apparent, qu'elle ait oublié la présence des deux jeunes femmes montrait à quel point Sheryam était troublé. Se fendant d'une nouvelle révérence, Ninevé bafouilla un « à vos ordres, Aes Sedai » et se précipita vers la sortie. Sans broncher, les sœurs, Léan et Siouan, la regardèrent s'en aller, Elaine sur les talons. Elle aussi pressait de filer, mais en prenant quand même le temps de jeter un dernier coup d'œil à la dame. Quand Ninevé eut refermé la porte, s'adossant au battant pour plus de sécurité, un coffret doré serré contre sa poitrine, elle respira librement pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans l'auberge devenue le quartier général des Aes Sedai. Elle refusait de penser au seau brisé. Un autre seau brisé. Non, elle ne devait pas y penser. Les Aes Sedai auraient pu tondre des moutons simplement en les regardant. Si elle n'avait pas eu la certitude qu'elle serait au milieu, Ninevé aurait attendu avec impatience la première rencontre entre ses sœurs et les matriarches. Quand elle était arrivée à la tour, prendre l'habitude d'obéir, voire de courber les chines, n'avait pas été facile. Après de longs mois passés à donner des ordres, non sans avoir consulté Elaine la plupart du temps, elle ne voyait pas comment elle allait pouvoir recommencer à jouer les carpettes devant les sœurs. Avec son plafond replâtré à la hâte et ses cheminées éteintes menaçant de s'écrouler, la salle commune de l'auberge restait une ruche grouillante d'activité, comme lorsqu'elle l'avait traversée pour gagner la pièce du fond. Personne ne lui accordant la moindre attention, l'ancienne sage-dame rendit l'appareil à tous ces braves gens. Une petite foule les attendait, Elaine et elle. Assis sur un banc et adossés au mur effrité, Tom et Julien étaient en grande conversation avec Uno, qui s'était accroupi devant eux, la longue poignée de son épée dépassant de ses épaules. Étonnée par tout ce qu'elle voyait, mais s'efforçant de ne pas le montrer, Areina et Nicolas occupaient un autre banc avec Marigan, qui regardait Birgit, occupée à tenter de dérider Jarry les sèves en jonglant très maladroitement avec trois balles de couleur de Tom. Agenouillée derrière les petits garçons, Mine les chatouillait et leur murmurait à l'oreille. Mais ils restaient de marbre, regardant le monde avec des yeux bien trop grands pour leur âge. À part les deux acceptés et leurs compagnons, deux personnes seulement ne couraient pas en tous sens. À quelques pas des bancs, deux des trois champions de Mirel, adossés au mur près de la porte donnant sur les cuisines, conversaient sereinement. Il s'agissait de Croy Makin, un jeune colosse blond d'Andorre au profil parfait de statue, et d'Avar Achami, un type au menton carré et au nez aquilin, arborant une moustache en tablier de sapeur. Avant même que son regard noir ne se soit posé sur lui, le faisant frissonner, pas un seul être pensant au monde n'aurait qualifié ce gaillard de beau. Bien entendu, les deux champions semblaient ne pas être conscients de la présence d'Uno, de Tom ou de quiconque d'autre pouvant être suspect. Par le plus grand des hasards, ils n'avaient rien à faire. Eux seuls, dans tout le village. Et ils avaient choisi cet endroit précis pour se prélasser. Ben voyons. Quand elle vit Ninevé et Elaine, Birgit laissa échapper une de ses balles.
« Que leur avez-vous dit ? »
demanda-t-elle en baissant brièvement les yeux sur la flèche d'argent que brandissait Elaine. L'héroïne portait son carquois à la ceinture, mais son arc était appuyé contre le mur. En approchant, Ninevé prit soin de ne jamais tourner la tête vers Makin et Achami. puis elle baissa la voix et dit calmement.
« Nous avons répondu à toutes leurs questions. Elles savent que tu es une bonne amie à nous qui nous a aidés. »
dit Elaine en serrant le bras de l'archère.
« Tu es la bienvenue ici, tout comme Areina, Nicolas et Marigan. »
Voyant Birgit se détendre un peu, Ninevé mesura à quel point elle avait dû être angoissée. Se penchant pour ramasser la balle jaune qu'elle avait laissée tomber, l'héroïne laissa ensuite les trois à Tom, qui les réceptionna d'une seule main et les fit disparaître en un éclair. Birgit s'autorisa un petit sourire de soulagement.
« Je ne saurais vous dire à quel point je suis contente de vous revoir toutes les deux. »
lança Mine pour la quatrième ou cinquième fois. Formant toujours une sorte de bonnet noir autour de sa tête, ses cheveux étaient plus longs que naguère, et elle avait changé d'une manière que Ninevé ne parvenait pas à définir, même si elle l'avait remarqué du premier coup d'œil. Détail surprenant, des fleurs récemment brodées décoraient les revers de sa veste.
« Les visages amicaux sont plutôt rares par ici. »
Mine jeta un regard furtif aux deux champions.
« Nous devrions trouver un coin tranquille et discuter un peu. J'ai hâte de savoir ce que vous avez fait depuis votre départ de Tarvalon. »
Et de raconter ce qu'elle avait fait de son côté, devina Ninevé.
« J'aimerais aussi beaucoup te parler, »
dit Elaine d'un ton grave. Mine la regarda, soupira et acquiesça, mais avec moins d'enthousiasme qu'une minute auparavant. Tom, Julien et Uno vinrent se camper derrière Mine et Birgit. Affichant l'expression typique des hommes s'apprêtant à dire quelque chose qu'une femme, selon eux, détesterait entendre, ils n'eurent pas le temps d'ouvrir la bouche, car une acceptée aux cheveux bouclés passa entre le pisteur de voleurs et le vétéran du chiennard, en les foudroyant du regard, et s'immobilisa devant Ninevé. Si elle portait bien sept bandes de couleurs à l'ourlet, pour symboliser les ajats, la robe de Faulaine ne gardait qu'un très vague souvenir de sa blancheur originelle, et la jeune femme au teint foncé semblait dans de mauvaises dispositions.
« Tu fais toujours cailler le lait pour t'amuser, Faulaine ?»
demanda Elaine, caustique. Ninevé conserva une expression bienveillante. Enfin, à peu près. En deux occasions, à la tour, Faulaine avait été désignée pour lui enseigner quelque chose. En réalité, pour la remettre à sa place. Car même quand l'élève et l'enseignante étaient désacceptés, la seconde bénéficiait de l'autorité d'une Aes Sedai, et Faulaine ne s'était pas privée d'en jouer. Après 8 années de noviciat et 5 dans la peau d'une acceptée, elle n'avait pas apprécié du tout que Ninevé ait sauté le noviciat, tout simplement, et qu'Elaine soit passée au niveau supérieur en moins d'un an. Les deux leçons s'étaient soldées pour Ninevé par un passage dans le bureau de Sheriam afin de répondre des accusations d'insubordination, de mauvaise humeur délibérée, de... Bref, une liste longue comme le bras de transgression.
« J'ai entendu dire que Siouan et Léan ont été maltraités par quelques personnes. »
fit Ninevé d'un ton presque joyeux.
« Et je crois que Sheriam a l'intention de faire un exemple afin de mettre un terme à ses débordements. »
Sous le regard impassible de l'ancienne sage-dame, Faulaine frémit, puis écarquilla les yeux.
« Je n'ai plus rien fait depuis que Sheriam... »
commença-t-elle. Faulaine se tut brusquement, rouge jusqu'à la naissance des oreilles. Malicieuse, Mine cacha son sourire derrière une main. L'acceptée qui venait de se trahir balaya du regard les autres femmes, de Birgit à Marigan. Puis elle fit signe à Nicolas et à Reina.
« Vous ferez l'affaire, je suppose. Venez avec moi. Tout de suite. Et sans traîner les pieds. »
Les deux femmes se levèrent lentement. Areina prit un air méfiant, et Nicolas se mit à jouer nerveusement avec le devant de sa robe. Devançant Ninevé, Elaine vint s'interposer entre les deux réfugiés et Faulaine.
« Que leur veux-tu ? J'obéis aux ordres de Sheriam Sedai. Pour ma part, je les trouve trop vieilles pour devenir des novices, mais je fais ce qu'on me dit de faire. La sœur qui accompagne les sergents enrôleurs du Seigneur Brine s'intéresse à des femmes aussi âgées que Ninevé, c'est tout dire. »
Faulaine eut un sourire de vipère.
Dois-je informer Sheriam Sedai que tu n'es pas d'accord, Elaine? Faut-il lui dire que ta suite est exemptée de toute investigation au sujet du pouvoir?
La fille héritière perdit un peu de sa superbe, mais bien entendu, elle ne pouvait pas faire machine arrière sans se ridiculiser. Donc, il lui fallait une diversion.
Vous avez trouvé beaucoup de candidates?
Demanda Ninevé en tapotant l'épaule de Faulaine. D'instinct, celle-ci tourna la tête. Quand elle regarda de nouveau les réfugiés, Elaine était déjà en train de les rassurer, soulignant qu'il ne leur serait fait aucun mal et qu'on ne les obligerait à rien. Ninevé ne serait certes pas allé si loin. Quand elle mettait la main sur une femme née avec une étincelle de pouvoir, comme Elaine ou Egwen, à savoir une personne qui finirait par canaliser le pouvoir, qu'elle le désire ou non, les Aes Sedai ne reculaient devant rien pour l'amener à suivre une formation, qu'elle en ait envie ou non. En revanche, elle se montrait moins empressée auprès des femmes qui pouvaient apprendre à canaliser et n'entrerait jamais en contact avec le Saïdar si on ne leur montrait pas comment faire. idem avec les naturels, qui avaient survécu à leur destin d'autodidacte. Une chance sur quatre, pas plus. En général, sans savoir ce qu'elle faisait, et en se bloquant d'une manière ou d'une autre, comme Ninevé elle-même. En théorie, ces femmes-là pouvaient choisir de rester à la tour ou non. Ninevé avait opté pour la formation, mais si elle avait refusé, elle soupçonnait fort qu'on l'aurait forcée à intégrer la tour, et peut-être même pieds et poings liés. En réalité, les Aes Sedai laissaient aux femmes susceptibles de les rejoindre autant de choix qu'à un pauvre agneau un jour de banquet.
« 3 », répondit enfin Faolaine. « Tous ces efforts pour 3 candidates seulement, dont une naturelle. »
À l'évidence, elle détestait les naturelles.
« Je ne comprends pas cette rage de découvrir de nouvelles novices. Celles que nous avons déjà ne pourront pas devenir des acceptées avant que nous ayons regagné la tour. Tout ça, c'est la faute de Siouan et de Léan. »
Un muscle tressaillit sur la joue de l'accepté quand elle s'avisa que cette remarque pouvait passer pour de l'acharnement contre les anciennes chères d'Amerlin et gardiennes des chroniques.
« Suivez-moi, »
dit-elle en prenant par le bras Nicolas et Areina.
« J'obéis aux ordres. Donc, on va vous faire subir des épreuves, que ce soit une perte de temps ou non. Une mauvaise femme. »
murmura Mine en regardant l'accepté s'éloigner avec les deux réfugiés.
« S'il y avait une vraie justice, un avenir très déplaisant l'attendrait. »
Ninevé aurait bien voulu savoir ce que Mine avait vu au sujet de Faolaine, une parmi la centaine de questions qu'elle aurait aimé lui poser. Mais Tom, Juilin et Uno vinrent se camper devant Elaine et elle, se déployant de façon à pouvoir regarder dans toutes les directions. Restant à l'écart, Birgit ramena les deux petits garçons à leur mère. Vu le regard qu'elle leur lança, Mine avait deviné où voulaient en venir les trois hommes. D'abord tentée de dire quelque chose, elle haussa les épaules, puis alla rejoindre Birgit. Le visage neutre, Tom aurait très bien pu vouloir parler du temps ou demander ce qu'il y avait pour le dîner. Rien d'important.
« Cet endroit grouille d'idiotes et d'idéalistes dangereuses qui croient pouvoir renverser Elaïda. C'est pour ça que Gareth Bryne est là. Il lève une armée. »
Juilin eut un grand sourire qui lui fendit en deux le visage.
« Pas des idiotes, des folles et des fous. Je me fiche qu'Elaïda ait été là le jour de la naissance de Loghain. Pour penser qu'on peut destituer, en étant ici, une chaire d'Amerlin bien installée à Tarvalon, il faut avoir une grande déficience mentale. Pour atteindre le Caerien, il nous faudrait environ un mois. Ragan et 2 ou 3 hommes ont déjà repéré les chevaux à emprunter, »
dit Uno avec un grand sourire lui aussi. Un frappant contraste avec son œil rouge furieux.
Les gardes ont mission de filtrer les arrivées, pas les départs. Dans la forêt, nous sèmerons ces gens. La nuit ne va pas tarder. Ensuite, ils ne nous trouveront plus jamais. »
Sur la berge du fleuve, Ninevé et Elaine avaient remis leur bague au serpent. Depuis, Uno surveillait son langage avec une remarquable efficacité, même s'il se laissait encore aller lorsqu'il pensait qu'elle n'entendait pas. Ninevé consulta du regard Elaine, qui secoua lentement la tête. Pour devenir une Aes Sedai, elle était prête à tout.
« Et moi ?»
se demanda l'ancienne sage-dame. Si ces Aes Sedai décidaient de contrôler Rand au lieu de le soutenir, quelle chance aurait-elle, Elaine et elle, de les faire changer d'avis? Eh bien, aucune, en réalité. Mais il y avait la guérison. Au Caerien, elle n'aurait pas la moindre possibilité de se former, alors qu'ici... À 10 pas d'elle, Terva Maressis, une mince sœur jaune au très long nez, pointait méthodiquement une liste sur une feuille de parchemin. Un peu plus loin, un champion chauve à la barbe noire conversait avec Nissao Dachen, la dominante de la tête et des épaules alors qu'il n'était pas plus grand que la moyenne. Plus loin encore, Dagdara Finchay, aussi large d'épaules que bien des hommes et plus grande que la plupart, distribuait des missions à un groupe de novices. Nissao et Dagdara appartenaient également à l'âge jaune. Ses cheveux grisonnants indiquant qu'elle était très âgée, sur une Aes Sedai, cet indice ne trompait pas, Dagdara, disait-on, en savait plus long sur la guérison que les deux autres réunis. Si elle allait rejoindre Rand, en quoi Ninevé lui serait-elle utile? En revanche, elle devrait le regarder perdre peu à peu la raison. Mais si elle progressait dans l'art de guérir, ne pourrait-elle pas l'aider à rester sain d'esprit? Selon elle, les Aes Sedai avaient une fâcheuse tendance à déclarer des maladies incurables avant d'avoir tout fait pour essayer de les enrayer. Toutes ces idées défilèrent dans la tête de Ninevé en une fraction de seconde. Juste le temps de tourner de nouveau la tête vers les hommes.
« Elaine et moi, nous restons ici. Uno, si vous voulez rejoindre Rand, tes hommes et toi, je n'y verrai aucun inconvénient. Hélas,
Je crains de n'avoir plus assez d'argent pour vous aider.
Le petit trésor confisqué par les Aes Sedai serait utile à bien des choses, c'était vrai. Mais Ninevé ne pouvait s'empêcher de faire la moue à l'idée du peu de pièces d'argent qui restaient dans sa bourse. Ses hommes l'avaient suivi, et Elaine aussi, bien sûr, pour toutes les mauvaises raisons possibles. Mais ça ne la dédouanait pas de ses responsabilités envers eux. Leur loyauté allant à Rand, pourquoi se serait-il impliqué dans une bataille pour la Tour Blanche? Baissant les yeux sur son coffret doré, Ninevé ajouta.
« Mais je peux vous donner des choses que vous vendrez en chemin. »« Tu dois y aller aussi, Tom, »
dit Elaine.
« Pareil pour toi, Juline. Contrairement à Rand, nous n'avons plus besoin de vous. »
Elle tenta de mettre entre les mains de Tom le deuxième coffret doré, mais le trouvère refusa. Les trois hommes se regardèrent de cette façon si agaçante qu'il leur était propre, Uno se permettant même de rouler de son œil unique. Ninevé crut entendre Juline murmurer quelque chose comme « Je vous avais bien dit que c'était des têtes de pioche. »«
Peut-être dans quelques jours, »
fit Tom.
« Oui, quelques jours, »
répéta Juline.
« Avant de filer aux Kairiennes avec des champions aux trousses, »
dit Uno.
« Un peu de repos ne me fera pas de mal. »
Ninevé foudroya les trois compères du regard et tira délibérément sur sa natte. Le regard glacial, Elaine pointa le menton plus haut que jamais. Depuis le temps, les hommes devaient pouvoir interpréter ces signes. Pas question de gober leur fadaise.
« Vous pensez obéir à Randaltor en veillant sur nous ?»
commença Elaine.
« Vous avez promis de m'obéir, »
dit Ninevé en même temps.
« Et j'entends bien que... »«
Vous vous trompez du tout au tout, »
dit Tom en écartant du front d'Elaine une mèche de cheveux vagabonde.
« Vraiment ? Mais un vieux type boiteux n'a-t-il pas droit à un peu de repos ?»«
Pour être franc, »
intervint Juline.
Je reste seulement parce que Tom me doit de l'argent. L'aider, vous comprenez.
Vous croyez que voler 20 chevaux à des champions est un jeu d'enfant ?
S'indigna Uno, oubliant qu'il venait de dire exactement le contraire. Elaine sembla à court de mots, et Ninevé éprouva un certain mal à trouver les siens. Était-elle tombée si bas ? Devant elle, les trois gaillards ne semblaient plus du tout impressionnés, comme si elles avaient perdu toute autorité. Pour ne rien arranger, Ninevé avait un conflit intérieur. Elle avait décidé de renvoyer les hommes, et certainement pas pour qu'ils ne puissent pas la voir faire des courbettes et des révérences à tout bout de champ. Non, certainement pas. Cela dit, sachant que rien, à Salidar, ne se passait comme elle l'avait prévu, il fallait bien reconnaître, même à contre-cœur, qu'il aurait été rassurant de savoir qu'Elaine et elle ne devraient pas compter exclusivement sur le soutien de Birgit. Pas parce qu'elles entendaient saisir un jour au vol l'occasion de s'enfuir, si on pouvait utiliser ce verbe, car ça, c'était hors de question. Mais un peu de réconfort, c'était facile à pressentir, ne pourrait en aucun cas leur faire du mal. Bien entendu, il n'aurait pas été question non plus que ces Lascars le sachent. Ça ne risquait pas, puisqu'ils allaient partir, qu'ils le veuillent ou non. Rand leur trouverait une utilité, c'était presque certain. Il leur traînerait dans les jambes, rien de plus. Sauf que... La porte, qui aurait bien eu besoin d'un coup de peinture, s'ouvrit, laissant passer Siouan et Léane. Les deux femmes se regardèrent froidement, puis l'ancienne gardienne des chroniques s'éloigna en ondulant des hanches, passa devant Croy et Avar, et s'engouffra dans le couloir qui menait aux cuisines. Ninevé fronça pensivement les sourcils. Au milieu de cette extrême froideur, il y avait eu une brève explosion de chaleur qu'elle avait failli ne pas voir, alors que tout se passait sous ses yeux. Siouan se tourna vers Ninevé, mais elle s'immobilisa soudain, les traits figés. Quelqu'un d'autre venait de se joindre au petit groupe. Une cuirasse bossuée passée par-dessus sa veste couleur chamois, ses gantelets renforcés de fer glissés à la ceinture, Gareth Bryne irradiait l'autorité. Avec ses cheveux presque gris et son visage expressif, il donnait le sentiment d'avoir tout vu, tout supporté, et d'être encore en vie quand même. Un homme qui pouvait encore endurer bien des choses. Elaine sourit et inclina gracieusement la tête. Une réaction très loin de sa surprise effarée lorsqu'elle avait reconnu Bryne dans la rue en arrivant à Salidar.
« Je ne saurais dire que te voir est entièrement un plaisir, Seigneur Gareth. J'ai entendu dire qu'il y a eu des difficultés entre ma mère et toi. Mais rien n'est irréparable en ce monde. Tu sais à quel point la reine peut être impulsive à l'occasion. Elle se ressaisira et te rappellera à Kemlyn. Je n'en doute pas un instant. »«
Ce qui est fait, Elaine, »
dit Bryne avant de se tourner vers Uno. Elaine en resta bouche bée. Nineveh n'avait jamais vu quelqu'un qui connaissait le rang de la fille héritière se montrer si expéditif avec elle.
Uno, as-tu réfléchi à ce que je t'ai dit? Les cavaliers du Chiennard sont les meilleurs du monde. Et j'ai des tas de jeunes gars qui ont besoin d'une formation adéquate.
Uno plissa le front, son œil unique regardant à la dérobée Elaine et Nineveh.
Eh bien, comme je n'ai rien de mieux à faire, je poserai la question à mes hommes.
Brian tapa sur l'épaule du vétéran.
Parfait. Et toi, Tom Merilyn?
Le trouvère s'était placé de profil et il se lissait la moustache tout en contemplant le sol, comme s'il voulait ne pas trop exposer son visage. Mais il releva la tête et soutint le regard du seigneur.
Jadis, j'ai connu un homme dont le nom ressemblait au tien,
dit Brian.
Un joueur très doué pour un jeu particulier. Moi, j'ai connu un type qui te ressemblait beaucoup,
répliqua Tom.
Il s'était forcé de me couvrir de chaînes. Et s'il avait réussi, il m'aurait fait couper la tête. Elle ne remonterait pas à longtemps ton histoire. Parfois, les hommes font d'étranges choses pour plaire aux femmes.
Brian regarda Siouan et secoua la tête.
Disputerais-tu une partie de pierre contre moi, maître Merilyn? Je déplore souvent de ne pas avoir un partenaire qui pratique ce jeu à merveille, comme dans les plus hautes sphères du pouvoir.
Tom fronça les sourcils, comme Uno, mais il continua à soutenir le regard du seigneur.
« Je veux bien jouer une partie ou deux, à condition de connaître les enjeux. Et si tu veux bien comprendre que je ne passerai pas le restant de mes jours à jouer avec toi. Traîner trop longtemps au même endroit me donne des fourmis dans les jambes. Tant que tu n'en auras pas au milieu d'une partie cruciale, »
lâcha Brian, glacial.
« Venez avec moi, tous les deux. Et n'espérez pas dormir beaucoup. Ici, tout aurait dû être fait hier, à part ce qui devrait être fini depuis une semaine. »
Il se tourna vers Siouan.
Mes chemises étaient d'une propreté douteuse aujourd'hui.
Sur ces mots, il s'éloigna, entraînant Tom et Uno avec lui. Siouan le regarda un moment, ses yeux lançant des éclairs. Puis, toujours furibonde, elle se tourna vers Min, qui fit une grimace et partit en direction des cuisines, comme Léane. Nineveh n'avait pas compris un traître mot à tout ce qui venait de se dire. Et quelle audace avaient ces hommes! Se permettre de parler devant elle comme si elle était absente et en tenant des discours incompréhensibles. Mais elle avait déjà perdu assez de temps avec eux.
« Une chance qu'il n'ait pas besoin d'un pisteur, »
fit Juline. Visiblement mal à l'aise, il lorgnait Siouan à la dérobée. Pour lui, apprendre l'identité de la jeune femme avait été un choc. Et Nineveh n'aurait pas parié qu'il avait compris qu'elle était calmée et ne dirigeait plus les Aes Sedai. En tout cas, devant elle, il était impressionné.
« Brian m'a pratiquement ignoré. »
soupira Elaine.
Qu'il y ait des problèmes entre ma mère et lui ne lui donne pas le droit de... Mais je m'occuperai plus tard de Seigneur Garrett. Nineveh, je dois parler à Min.
L'ancienne sage-dame emboîta le pas à sa compagne. Les réponses de Min promettaient d'être intéressantes, mais Siouan lui prit le poignet d'une main de fer. La Siouan Sanche qui courbait les chines devant les Aes Sedai n'était plus qu'un souvenir. Ici, personne ne portait le châle. Gratifiant Juline d'un regard glacial, elle parla sans élever le ton, car elle n'en avait pas besoin.
« Attention aux questions que tu poses, pisteur de voleurs. Tu ne veux pas te retrouver sur l'étal d'un poissonnier, vidé de tes entrailles. »
Quand Siouan riva ses yeux bleus sur Marigan puis sur Birgit, la première fit la moue comme si elle venait de goûter un fruit amer, et la seconde elle-même tressaillit.
« Vous deux, mettez-vous en quête de Théodrine, une acceptée, et demandez-lui de vous trouver un endroit où dormir. » Ces enfants devraient déjà être couchés. Eh bien, qu'attendez-vous? Exécution!
Avant que les deux femmes se soient mises en mouvement, Birgit réagissant plus vite que Marigan, Siouan se tourna vers Nineveh.
J'ai des questions à te poser. On t'a ordonné de coopérer et tu devrais le faire, si tu ne veux pas d'ennui.
Comme prise dans un tourbillon, Nineveh se laissa entraîner par Siouan, qui s'engouffra dans un escalier à la rampe préparée avec des planches brutes, puis remonta en trombe un couloir au plancher usé et entra dans une petite pièce où se trouvaient deux lits superposés. Prenant le seul tabouret, Siouan fit signe à Nineveh de s'asseoir sur le lit du bas. Histoire de montrer son indépendance, la jeune femme choisit de rester debout. Balayant la chambre du regard, elle vit une coiffeuse bancale sur laquelle reposaient un broc et une cuvette. Quelques robes pendaient à des patères et ce qui semblait être une paillasse était enroulé dans un coin. En moins d'une journée, Nineveh était tombée très bas. Mais Siouan, elle, avait plongé au fond d'un abîme. Tout compte fait, elle ne risquait pas d'être un gros problème, même si ses yeux, eux, n'avaient pas changé.
Reste debout si ça t'amuse, petite. L'anneau, pour l'utiliser, il n'y a pas besoin de canaliser le pouvoir. Non. Vous...
Non, pas question de s'en laisser imposer.
Tu m'as entendu dire à Shyriam que... N'importe qui peut s'en servir? Une femme qui ne sait pas canaliser? Un homme? Un homme, peut-être, oui.
En général, un Terangréal qui n'avait pas besoin du pouvoir fonctionnait pour les deux sexes.
N'importe quelle femme, c'est certain. Dans ce cas, tu vas m'apprendre à l'utiliser.
Nineveh arqua un sourcil. Ce pouvait être un moyen d'obtenir ce qu'elle voulait. Sinon, elle en avait un autre. Enfin, peut-être.
Les Aes Sedai sont informés? Quand il a été question de leur apprendre à se servir de l'anneau, ton nom n'a jamais été mentionné. Elles ne savent rien.
Pas ébranlé le moins du monde, Siouan eut un sourire mauvais.
Et elles continueront à ne rien savoir. Sinon, elles apprendront qu'Elaine et toi vous êtes fait passer pour des Aes Sedai après votre départ de Tarvalon. Moiraine est peut-être indulgente avec Egwen. Si cette gamine n'a pas également fait ce coup-là, c'est que je ne sais plus distinguer un nœud de cabestan d'un nœud de grappin. Mais Shyriam, Carlinia et les autres, avant d'en avoir terminé avec vous, elles vous auront fait couiner comme des grondins blessés. Oui, bien longtemps avant d'en avoir fini. C'est ridicule,
dit Nineveh. S'avisant soudain qu'elle était assise au bord du lit, elle ne parvint pas à se souvenir du moment où elle l'avait fait. Tom et Julien tiendraient leur langue, c'était sûr. Et personne d'autre ne savait. Elle allait devoir en parler à Elaine.
Nous n'avons rien fait de tel. Ne me prends pas pour une idiote, gamine. Si j'avais eu besoin d'une confirmation, je l'aurais eu dans tes yeux. Ton estomac menace de se retourner, pas vrai?
Ça, on pouvait le dire.
Pas du tout. Si je t'enseigne quelque chose, ce sera parce que je le veux bien.
Ce qui lui restait de compassion pour Siouan désarta Nineveh, bien décidé à ne pas se laisser malmener.
Si je le fais, il me faudra quelque chose en échange. Vous étudiez, toi et Léane. Je veux découvrir si une femme calmée peut être guérie. C'est impossible,
lâcha Siouan.
Et maintenant, à part la mort, tout devrait être guérissable. La réponse est dans le devrait, gamine. Léane et moi avons reçu l'assurance qu'on nous laisserait en paix. Si tu veux savoir ce qui arrive aux femmes qui nous molestent, demande à Faolaine ou à Imara. Elles n'étaient pas les premières, ni les pires, mais elles ont crié le plus longtemps.
Au bord de la panique, Nineveh avait failli oublier qu'il lui restait un autre moyen de faire pression sur Siouan. Enfin, peut-être. Si elle avait bien interprété un seul regard.
Que dirait Shyriam si elle savait que Léane et toi n'êtes pas le moins du monde fâchés?
L'ancienne chère d'Amerline ne réagit pas.
Les Aes Sedai croient vous avoir à leur botte, c'est ça? Plus vous houspillez quelqu'un qui ne peut pas se défendre, plus elles croient à votre sincérité quand vous leur obéissez au doigt et à l'œil. Une telle comédie a suffi pour leur faire oublier que vous avez travaillé main dans la main des années durant, ta gardienne des chroniques et toi? Ou les avez-vous convaincus qu'être calmée a tout changé en vous, pas seulement votre apparence? Quand elles s'apercevront que vous avez comploté dans leur dos, tirant les ficelles comme si elles étaient des marionnettes, vous crierez plus fort que n'importe quel grondin. Quoi que soit un grondin.
Siouan n'avait même pas scié. À l'évidence, elle était résolue à garder son calme et à ne rien avouer. Mais ce regard fugitif qu'elle avait échangé avec Léane, Nineveh ne l'avait pas inventé.
Je veux pouvoir vous étudier chaque fois que l'envie m'en prendra. Et Loghain aussi.
Au fond, il y avait peut-être là aussi des informations à glaner. Les hommes étant différents, ce serait une façon d'aborder la question sous un autre angle. Bien entendu, même si elle découvrait comment faire, elle ne guérirait pas le faux dragon. Pour le salut de tous, il fallait que Rand sache canaliser le pouvoir. Ce n'était pas une raison pour lâcher sur le pauvre monde un autre mâle doté de cette arme.
Si tu refuses, tu peux dire adieu à l'anneau de pierre et à Telaran Riyad.
Qu'espérait Siouan dans le monde des rêves? Sans doute revivre les sensations qu'elle éprouvait lorsqu'elle était encore une Aes Sedai. La gorge bizarrement serrée à cette idée, Nineveh dut éliminer impitoyablement ses ultimes relents de compassion.
Et si tu parles de ton histoire absurde, Elaine et moi à nous faire passer pour des Aes Sedai, je dirai tout sur ta fausse fâcherie avec Léane. Elaine et moi vivons peut-être des moments désagréables jusqu'à ce que la vérité soit établie. Et ensuite, tu crieras aussi longtemps que Faolaine et Emara réunis.
Toujours pas de réaction. Comment Siouan parvenait-elle à rester si impassible? Contrairement à ce que Nineveh croyait, ce n'était donc pas une caractéristique liée à l'état d'Aes Sedai. Pour sa part, elle avait les lèvres sèches, et pas un poil de sec sinon. Si elle s'était trompée, et si Siouan était prête à une partie de bras de fer, elle n'avait aucun doute sur l'identité de la perdante.
J'espère que Moiraine est parvenue à garder la colonne vertébrale des Gwen plus souple que la tienne.
Nineveh ne comprit pas vraiment la remarque, mais elle n'avait pas le temps de s'attarder dessus. Siouan tendit la main et se pencha légèrement en avant.
« Garde mes secrets, et je garderai les tiens. Et si tu m'apprends à utiliser l'anneau, tu pourras étudier tant que tu voudras deux pauvres femmes calmées et un faux dragon apaisé. »
Alors qu'elle scellait le pacte en serrant la main de Siouan, Nineveh eut du mal à retenir un soupir de soulagement. Elle avait réussi. Depuis ce qui lui semblait une éternité, quelqu'un avait tenté de la brusquer et avait essuyé un cinglant échec. De quoi lui donner le courage d'affronter Moghedien. Enfin, presque. Elaine rattrapa Mine après qu'elle fut sortie de l'auberge par la porte de derrière, et elle marcha à ses côtés. Deux ou trois chemises blanches pliées sur un bras, Mine traversa la cour qui, à la lumière du soleil couchant, évoquait plutôt un champ fraîchement retourné. L'énorme souche de ce qui devait avoir été un chêne géant se dressant au milieu. Les écuries de pierre au toit de chaume n'ayant pas de porte, Elaine put parfaitement voir les hommes qui allaient et venaient entre les stalles toutes remplies. À l'ombre du bâtiment, spectacle curieux, Léane parlait avec un colosse plutôt mal vêtu qui devait être un forgeron ou un bagarreur invétéré. Le plus curieux, c'était la façon dont Léane se tenait près du type, la tête inclinée pour le regarder. Puis elle lui tapota la joue, se retourna et repartit à la hâte vers l'auberge. Après l'avoir suivi des yeux, le colosse se détourna et disparut dans les ombres.
« Ne me demande surtout pas ce qu'elle mijote, »
dit Mine.
« Des gens étranges viennent les voir, Siouan et elle. Et avec certains hommes, eh bien, tu as vu. »
Elaine ne s'intéressait pas vraiment à ce que faisait Léane. Mais à présent qu'elle était seule avec Mine, elle ne savait plus trop comment en venir là où elle le désirait.
« Que fais-tu avec ces chemises ?»« La blanchisseuse. Tu ne peux pas savoir à quel point il est plaisant de voir Siouan être la souris pour une fois. » Elle ne sait pas si l'aigle veut la manger ou la transformer en animal domestique. En tout cas, elle a autant le choix que ses victimes, naguère. C'est-à-dire aucun.
Elaine dut accélérer le pas pour ne pas se faire semer. Tout ça était bien beau, mais ça ne l'aidait pas du tout.
Savais-tu ce que Tom allait proposer? Cela précisé, nous restons. Je l'avais bien dit, et pas à cause d'une vision.
Mine ralentit de nouveau le pas, lorsqu'elle s'engagea dans un passage étroit encombré de broussailles, entre le côté des écuries et un muret à demi écroulé.
« Je pensais simplement que vous ne renonceriez pas, Nineveh et toi, à reprendre votre formation. Tu es avide d'apprendre, et elle aussi, même si elle refuserait de l'admettre sous la torture. J'espérais me tromper, parce que je serais parti avec vous. Au moins, je... »
Mine marmonna quelques imprécations inaudibles.
« Ce trio qui vous accompagne sera une source d'ennui. » Et ça, c'est une vision.
Voilà l'ouverture qu'attendait Elaine. Pourtant, au lieu de s'y engouffrer, elle demanda.
Tu veux parler de Marigan, Nicolas et Areina? Comment pourrait-elle nous attirer des ennuis?
Hélas, seul un idiot n'aurait pas tenu compte des visions de Mine.
Je ne sais rien de précis. J'ai capté des fragments d'aura, et seulement du coin de l'œil. Jamais quand je les regardais en face, là où j'aurais pu en apprendre plus. Peu de gens ont une aura en permanence, sais-tu? Elles auront peut-être la langue trop longue. Y aurait-il des choses que tu préférais cacher aux Aes Sedai?
Sûrement pas!
S'écria Elaine, ce qui lui valut un regard en coin de sa compagne.
En tout cas, rien que nous aurions pu éviter de faire. Et de toute façon, les réfugiés ne peuvent pas être au courant.
Cette conversation l'éloignait de son objectif. Prenant une grande inspiration, elle décida de se jeter à l'eau.
Mine! Tu as eu une vision qui nous concernait, rendez-moi, pas vrai?
Elaine fit encore deux pas avant de s'apercevoir que Mine s'était arrêtée.
Oui.
Une réponse pleine de méfiance.
Tu as vu que nous allions tomber amoureux l'un de l'autre? Pas exactement. Je t'ai vue éprise de lui. Sur ce sentiment pour toi, je ne sais rien. Sauf qu'il est lié à toi d'une certaine façon.
Elaine fit la moue. C'était à peu près ce qu'elle s'attendait à entendre, mais pas ce qu'elle avait eu envie de se faire dire. Avec les souhaits et les désirs, on s'en mêle les pinceaux, et avec la réalité, on marche d'un pas assuré. Un autre dicton de Ligny, et une leçon à retenir.
Tu as vu qu'il y aurait une autre femme, quelqu'un avec qui je devrais le partager. Deux autres femmes.
Souffla Mine.
Deux.
et je suis l'une des deux. »
La bouche ouverte sur sa question suivante, Elaine la ravala et couina.
« Toi ?»« Oui, moi. Tu crois que je ne peux pas aimer ?» « Je ne voulais pas, mais c'est arrivé, et voilà tout !»
Mine repartit à grandes enjambées. Cette fois, la fille héritière eut besoin de plus de temps pour la rattraper. Eh bien, ça expliquait pas mal de choses, en particulier pourquoi Mine avait toujours éludé le sujet. Et aussi ses nouvelles broderies sur les revers de sa veste, et ce léger fard sur ses joues, sauf si la fille héritière se faisait des idées.
« Comment est-ce que je prends cette nouvelle ?»
Bizarrement, elle aurait été incapable de le dire.
Qui est la troisième ? Je ne sais pas. La seule indication que j'ai, c'est qu'elle a un sacré caractère. Mais il ne s'agit pas de Ninévé, grâce en soit rendue à la lumière. Je doute que j'aurais pu survivre à ça.
Mine regarda une nouvelle fois Elaine de biais.
Quelles conséquences ça aura entre nous deux ? Elaine, je t'aime bien. Je n'ai pas de sœur et parfois, il me semble que... Je veux être ton amie. Et je ne cesserai pas de t'apprécier quoi qu'il arrive. Mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Je n'apprécie pas beaucoup l'idée de partager un homme,
fit Elaine. Un euphémisme à tout le moins.
Moi non plus, pourtant. Elaine, j'ai honte de l'avouer, mais je ferai tout pour l'avoir. Toutes les deux, nous n'avons pas le choix. Il a bouleversé ma vie par la lumière. Penser à lui suffit à m'embrouiller les idées.
Mine semblait ne pas savoir s'il fallait en rire ou en pleurer. Elaine expira très lentement. Ce n'était pas la faute de Mine. Au fond, ne valait-il mieux pas que ce soit elle plutôt qu'une autre, par exemple Berylaine, ou tout autre chipie qu'elle n'aurait pas pu supporter ?«
Taveren, »
dit-elle,
« le monde se tisse autour de lui. Nous sommes des copeaux de bois emportés par un cyclone. Mais il me semble me rappeler une promesse que nous nous sommes faite un jour, Egwene, toi et moi. Ne jamais laisser un homme gâcher notre amitié. Mine, nous surmonterons cette épreuve. Et quand nous saurons qui est la troisième, eh bien, nous surmonterons ça aussi, d'une façon ou d'une autre. Une troisième femme, pas Berylaine, par le sang et les cendres.
D'une façon ou d'une autre, oui. En attendant, nous sommes coincés ici, toi et moi. Je sais qu'il y a une troisième femme, je ne peux rien y faire. J'ai déjà eu assez de mal à me faire à l'idée que tu... Les Kyrianiennes ne sont pas toutes comme Warren. À Berlon, j'ai un jour vu une noble du Kyrienne. Extérieurement, elle aurait pu faire passer Moiraine pour une émule de Léane. Mais si tu avais entendu certaines de ses allusions, et vu ses auras, avec elle, pas un seul homme en ville n'était en sécurité, à moins d'être laid, boiteux ou bossu, ou mieux encore, raide mort.
Elaine eut un des fameux soupirs, mais elle parvint à parler d'un ton dégagé.
Ne te mets donc pas Martel en tête. Nous avons une autre sœur, toi et moi. Tu ne l'as jamais rencontrée, mais Avienda garde l'œil et le bon sur Rand. Et il ne peut pas faire 10 pas sans son escorte de promise de la lance.
Une Kyrienienne ? Au moins, Elaine connaissait Berylaine. Sur elle, elle avait des informations et... Non, elle n'allait pas se ronger les sangs comme une gamine idiote. Une adulte prenait le monde comme il était et en tirait le meilleur. Mais qui était-ce donc ? Les deux femmes arrivèrent dans une cour à ciel ouvert au sol couvert de cendres froides. De grands chaudrons à la couleur passée, là où on avait enlevé la rouille, était disposé tout au long du mur circulaire défoncé en plusieurs endroits par les arbres qui poussaient à l'extérieur. Alors qu'on n'y voyait presque plus, 2 chaudrons continuaient à reposer au-dessus d'un feu et 3 novices, les cheveux poisseux de sueur et les jupes relevées, étaient encore penchés sur des planches à laver, immergés dans de grands baquets d'eau savonneuse. Elaine jeta un coup d'œil aux chemises pliées sur le bras de Mine, puis elle s'unit au Saïdar.
« Laisse-moi te donner un coup de main. »
Canaliser le pouvoir quand on avait écopé d'une corvée était interdit. Les bienfaits de l'effort physique, affirmaient les Aes Sedai. Mais cette règle ne s'appliquait pas en l'occurrence. Si Elaine tordait et retordait les chemises dans l'eau comme il le fallait, pourquoi Mine aurait-elle dû se mouiller les mains ?
Raconte-moi tout. Siouan et Léa n'ont-elles tant changé que ça ? Et comment es-tu arrivé ici ? Logan y est-il pour de bon ? Et que signifie cette histoire de blanchisseuse ? Je veux tout savoir.
Mine parut ravie de pouvoir changer de sujet.
Pour ça, il faudrait 1 semaine. Mais je vais essayer. Pour commencer, j'ai aidé Siouan et Léane à s'évader de la cellule où Elaïda les avait fait enfermer. Ensuite,
non sans émettre les exclamations requises au moment idoine du récit de Mine, Elaine recourut à un tissage d'air pour faire léviter un des chaudrons encore posé sur des flammes. Habituée à accomplir des exploits que certaines Aes Sedai auraient été incapables d'imiter, elle ne remarqua même pas le regard stupéfié des novices. qui était la troisième femme. Avienda avait sacrement intérêt à être vigilante.